de Charles Ferdinand Ramuse, Jean-Luc persécuté. Chapitre 1er. Comme il avait été convenu qu'il irait, ce dimanche-là, voir une chèvre à Sassenaire, Jean-Luc Robille, après avoir mangé, prit son chapeau et son bâton. Il alla ensuite embrasser sa femme, car il l'aimait bien, et il n'y avait que 2 ans qu'ils étaient mariés. Elle lui demanda « Quand seras-tu rentré ?» Il répondit « Vers les 6 heures. » Il reprit « Mais il faut que je me dépêche, parce que Simon doit m'attendre, et il n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Cependant, avant de sortir, marchant sur la pointe des pieds, il s'en fut à la chambre et alla au berceau où le petit, qu'ils avaient eu ensemble l'année d'avant, dormait. « Fais attention !» cria Christine. Et lui, s'étant penché, il ne l'embrassa point, comme il avait eu l'intention de faire. Il le regardait seulement dormir. C'était un gros garçon de 11 mois et 2 semaines, car on compte les semaines et les jours au commencement. Avec des joues comme vernis et une grosse tête ronde enfoncée au creux du coussin. Et le berceau, c'était Jean-Luc qui l'avait fait lui-même de beaux mélèzes, ayant travaillé le menuisier, comme on dit, et appris le métier, avant de se mettre au bien de sa mère, quand son père vivait encore. Il se tint donc penché, là, un moment, regardant dormir le petit. Puis, ayant retraversé la cuisine et ouvert la porte de la maison, « Adieu, femme !» dit-il encore, et il embrassa encore Christine. Il avait trouvé Simon couché dans son lit. « J'ai mes douleurs qui m'ont repris, » avait dit Simon. « Tu vois, alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ?»« On ira dimanche prochain, » dit Jean-Luc. Il s'était assis à côté du lit. Il causa un moment avec Simon et sa fille qui était venue. Ils causèrent ainsi un moment, les trois, pour passer le temps. On entendit sonner 1 heure, puis 2 heures, sur quoi Jean-Luc s'en retourna chez lui. Devant l'auberge, il trouva du monde, ce qui fit qu'il perdit de nouveau 1 quart d'heure. Mais comme on l'invitait à venir boire, il refusa. Et les autres se mirent à rire. « Ça tient toujours ?» « Est-ce permis ou non ?» disait Jean-Luc. « Oh, c'est permis !» Il se mit à rire lui aussi, puis rentra vite. Il monta l'escalier, pesa sur le loquet, la porte était fermée. Il pensa « Elle est allée chez Marie !» C'était la femme du maréchal. Et, se baissant, prit la clé sous le tas de bois où on l'a cachée. Puis pensa « Je vais aller voir chez Marie !» Il ne l'y trouva pas, et Marie n'avait point vu Christine, ni le mari de Marie qui lisait le journal, qui leva la tête et dit à Jean-Luc, car il aimait à plaisanter, « Quand on a une femme, il ne faut pas la laisser seule. » Jean-Luc n'avait rien répondu, et il était inquiet. L'inquiétude lui était venue tout à coup, il ne savait pas pourquoi, et le suivit dans la cuisine vide, au feu qui s'éteignait, et dans la chambre, où il se mit sur une chaise près du berceau, et il écoutait le dimanche. Un bruit de voix et un petit bruit d'eau, rien d'autre. Tout le monde se reposait. Il avait un petit peu neigé la nuit avant, un rien encore, une farine, marquant seulement que l'hiver était là. Et un grand jour était entré au matin dans la chambre, où tout semblait refait à neuf. Il se tenait les coudes sur les genoux, il se demandait « Où peut-elle bien être allée ?» Il ne trouvait pas de réponse. Alors, pris par l'ennui, il se leva, il regarda par la fenêtre. Il y avait un bout de pente de près, puis venaient des saules et des trembles, et le grand étang se montrait, rond de forme et point encore gelé. Mais, d'ordinaire beau, luisant et mirant toute la montagne, la neige en fondant dessus l'avait comme dépoli. Derrière, sous le ciel bleu, les étages montaient, tout blancs, tachés de noir. Tout à coup, les yeux de Jean-Luc se posèrent à terre et y restèrent fixés. C'était à cause des traces de pas qu'il y avait là, des pas dans la neige, petits, bien marqués, et ils se dirigeaient, non pas vers le village où le chemin était déjà battu, mais de l'autre côté, en suivant le bord de l'étang. Il pensa, où est-ce qu'elle est allée? Aussitôt, il fut décidé. Il prit le petit qui se réveillait, l'enveloppa bien au chaud dans un châle, puis, s'en retournant chez Marie, « Veux-tu me le garder pendant que je suis loin ?» Marie lui demanda, « Alors, Christine n'est pas rentrée ?» Il dit que non, revint vers la maison, mais n'y entra pas, et se mit à suivre les traces. Elles commençaient juste devant la porte. Il les suivait sans en avoir l'air, les mains dans les poches, à cause des gens qui pouvaient le voir, mais le cœur lui battait. Et il espérait encore qu'une fois sur le chemin qui suit la digue dans le bout de l'étang, les pas tourneraient vers le village. Or, là, il tournait bien, mais dans l'autre direction, celle de la montagne. Alors il repartit plus vite. Maintenant, sur le chemin, les traces étaient embrouillées, un mulet et des hommes ayant aussi passé par là. Seulement, ils surveillaient sur les côtés la couche de neige encore lisse. Et bientôt, en effet, il vit les petits pas prendre à gauche, dans une espèce de repli de terrain, comme il y en a partout dans le pays, dont il longea le fond. Puis il fut conduit droit contre la pente, où il commença à grimper. Sur les talus bien exposés, la neige avait déjà fondu, laissant percer des plaques jaunes de gazon. Là, les traces cessaient soudain, mais pour reparaître plus haut. Et d'ailleurs, dans la terre humide, le talon s'était enfoncé, et les clous des souliers l'avaient rayé en glissant. On ne pouvait pas s'y tromper. En oblique, à présent, il s'en allait vers un autre chemin qui conduit au plateau des Roffes. Il se disait « Elle a fait un détour ». Il se disait, regardant les marques des clous, « Et puis, elle a gardé ses souliers du dimanche ». Et il reconnaissait bien le dessin des clous, plantés seulement tout autour de la semelle et à la tête ronde et lisse, car c'était, ses souliers, un cadeau qu'il lui avait fait, ayant été à la foire à l'automne. Puis il pensait, « Quel petit pied elle avait pourtant !» Tandis qu'il y avait en lui une voix qui répétait, « Cher petit pied, c'est les plus petits pieds qu'il y ait dans tout le village. » Néanmoins, il continuait à monter, et il rejoignit le second chemin. Il est pierreux, l'été, tout allumé de soleil, avec des jolis buissons d'églantines à petites feuilles et fleurs roses. La neige avait tout recouvert, les buissons semblaient de gros pelotons de gros fils défaits. Et puis, comme on s'est élevé, quand on se retourne, on aperçoit de là, droit au-dessous de soi, toutes les maisons du village, serrées et rangées dans le creux, comme des œufs dans un nid, blanche du toit parmi le blanc, et au milieu la grande église, aux murs nus. Puis par derrière, découpée sur le ciel et sur la profondeur de la large vallée, se dresse une drôle de colline pointue, avec des bords en dents de scie à cause des sapins, le Bourny, comme on l'appelle. C'était la vue. Lui montait. De parmi les buissons, à un moment donné, sort un grand pin solitaire. Parvenu là, Jean-Luc subitement fit halte, car il venait de voir une seconde trace. Cette seconde trace rejoignait l'autre sous le pin. C'était des gros pas, des pas d'homme, et sous le pin, on avait dû attendre, la neige étant toute piétinée. Puis les gros pas et les petits pas avaient continué ensemble, comme on voyait plus loin sur le sentier, aux marques tantôt plus écartées, tantôt plus rapprochées, parfois presque confondues. Il ouvrait les yeux, il n'y pouvait croire, et pourtant y était forcé, car la couche de neige devenait plus épaisse, ayant été entassée dans les creux par le vent. Alors, si loin qu'on pouvait voir sur cette épaule de colline, indiquée en bleu par une ombre, les trous profonds continuaient à se montrer, et double, et doublement marqué, comme une couture à un drap. Il était reparti. Il se mit à aller plus vite. Il fut bientôt arrivé sur la crête. Là, on entre dans une combe. Le sentier s'en va au milieu. Les mélèzes à couleur de miel, gris du tronc, gris de certaines branches déjà dépouillées, étaient comme rangés autour. En avant de soi, par une entaille sur le ciel vert, un lointain sommet sortait, rose. Il y avait un petit rose aussi, presque du blond plutôt, dans la lumière, sur la neige, pendant que diverses saillies ou arêtes, dans ce velours, brillaient comme de l'or. Ou bien un buisson, une pointe d'arbre, une cassure de terrain. Mais on a le cœur triste, et tout était dans le silence. Un chocard envolé passait par moments dans le ciel, où il occupait une place, et puis ne l'occupait plus. Les bruits venaient de très loin, comme étrangers à la terre. On entendait sonner la cloche d'un village, on ne savait pas où, peut-être dans la plaine. Bientôt elle se tut. Un coup de fusil éclata, un braconnier peut-être, dans une gorge tout là-bas, et traîna longtemps d'écho en écho. Et Jean-Luc se passa la main sur le front, car il était en sueur, mais il ne s'arrêta pas. Maintenant, il aurait été les yeux fermés, devinant tout. Il remonta la combe, tourna encore à droite, ensuite, parmi les premiers mélèzes, se dirigea vers la forêt. Il entra dans la forêt. Alors, il y eut tout à coup une seconde place où on s'était arrêté. À la suite de quoi, on ne distinguait plus qu'une seule trace, celle des gros pas d'homme. Il l'examina. Non, plus qu'une. Les jambes lui manquèrent. Il se disait « Il faut qu'il l'ait portée. Elle était fatiguée et il l'a portée. » Et en effet, les traces étaient plus enfoncées qu'avant, plus traînées, avec de ci, de là, une pierre ressortie, et sous les arbres, un peu de terre noire ou des aiguilles de mélèze. Ailleurs, on avait buté à une racine cachée, puis on s'était reposé. Et voilà de nouveau les deux petits pieds étaient marqués, à côté des gros, dans la neige. Ce fut comme il l'avait prévu. À la lisière de la forêt, il y avait un fenil neuf, appartenant à un nommé Augustin Crétaz. « C'est lui, » pensa Jean-Luc. Pourtant, on disait qu'il était absent. Alors, c'est qu'il est revenu, et elle ne me l'a pas dit. Il s'était appuyé à un tronc. On n'entendait rien, on ne voyait rien. Il devait y avoir du foin dans le fenil. On est bien couché dans le foin. Il fit un mouvement comme pour s'avancer, mais à ce moment, quelqu'un là-bas se mit à rire. Il le connaissait bien, ce rire. Il redescendit à grands pas. Il était 5 heures quand elle revint, et le jour baissait, car on était aux jours les plus courts de l'année. En même temps, le froid des nuits d'hiver tomba, qui surprend l'eau qui coule et durcit les chemins. Alors, le sonneur, étant sorti de l'auberge, commença à monter le haut escalier du clocher, car le moment de l'Angélus était venu. Elle s'étonna de voir que la porte de la cuisine avait été seulement poussée. Elle entra. Un peu de jour tombait encore par la fenêtre. Elle aperçut Jean-Luc assis près du foyer. Point de feu et la cendre morte. Il était assis là. Elle lui dit « Comment se fait-il que tu sois déjà revenu ?» Il répondit « C'est que je ne suis pas parti, ayant trouvé Simon malade. » Elle eut un petit mouvement d'épaule, mais tout de suite contenu, et dont il ne s'aperçut pas, étant penché en avant. D'ailleurs, il ne l'avait même pas regardé. Elle reprit « Tu n'as pas froid sans feu? Il commence à geler. » Jean-Luc répondit « Je n'ai pas froid. » L'Angélus sonna, ils se turent l'un et l'autre. Jean-Luc continuait de tenir la tête baissée, et l'enfant était couché dans ses bras. Il devenait pesant parce qu'il s'endormait. Ça dort ainsi tout le jour et mange. Et l'Angélus étant fini, on vit les petites paupières se déplier tout à fait, tandis qu'un sang plus rouge s'était répandu sous la peau avec la moiteur du sommeil. « Est-ce qu'il a mangé ?» dit Christine. Jean-Luc répondit « Ça me regarde. » Elle s'était mise à allumer le feu. Soudain, elle fut en pleine lumière. Alors, on vit ce qu'on n'avait pas pu voir encore. À ses cheveux un peu défaits et tombant sur le front en petits frisons, eux si bien lissés d'habitude, des gouttes brillaient, restées prises. L'épingle en faux or qu'elle avait au col de son caraco était agrafée de travers. Sur ses épaules et sa poitrine, il y avait des taches de mouillé. Jean-Luc s'était tourné vers elle. « Il ne pleut pourtant pas ? » dit-il. « C'est les gouttes qui tombent des toits. » Elle dit cela avec assurance, puis, brusquement, allant à lui, « Donne-moi un moment, l'enfant. » Il fit non avec la tête. Elle n'insista pas, elle ne sembla même pas surprise, et continuait le ménage, allant et venant dans la cuisine, prenant les tasses et les assiettes au râtelier. La marmite était sur le feu, elle descendit à la cave couper un morceau de fromage. Elle apporta le pain. L'eau se mit à bouillir, elle la versa sur la cafetière. On entendit le bruit des petites gouttes qui percent à travers le filtre et tombent une à une dans le récipient de fer blanc. Et le lait étant monté sur le feu, « Tu peux venir, » dit-elle. « C'est prêt. » L'enfant était tout à fait endormi. Jean-Luc pourtant ne l'avait point quitté, et, venant s'asseoir à la table, ne l'avait point quitté encore, mais le souleva avec précaution, puis l'étendit sur ses genoux, une jambe un peu relevée. Christine ne disait plus rien. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, la largeur de la table entre eux. Là était posée la grosse miche plate, le pot de lait et le fromage, où elle coupa avec son couteau, et tout de suite commença à manger. Elle avait également rempli les tasses de terre brune, à l'intérieur jaune. Le café fumait avec sa bonne odeur. Elle mangeait, donc, et buvait. Et Jean-Luc, ayant taillé comme elle dans la miche, avait commencé aussi à manger. Mais les morceaux ne passaient point. Quoiqu'il eût un gros appétit d'ordinaire, étant fort et bon travailleur. Mais le pain, à présent, était comme de la terre sèche dans sa bouche. Alors il but pour le faire descendre, mais son assiette resta pleine, tandis que Christine s'était resservie et avait rempli de nouveau sa tasse. Elle lui demanda « Qu'as-tu ? » Il repoussa loin de lui son assiette, laissa tomber son couteau sur la table, baissa la tête et demeura. Elle reprit « Jean-Luc ! » Il ne bougea point. Il était absent, et ses mains, ayant glissé du rebord de la table, ses grosses mains vides pendaient. Elle vit qu'il fallait parler. « Écoute, » dit-elle, « il faudrait s'entendre. Tu te souviens pourtant, le jour du patron, quand tu m'as demandé si je voulais bien, quand tu disais que tu m'aimais, je t'ai répondu « Moi j'aime mieux Augustin, et il m'a demandé aussi. » Mais son père ne veut pas parce que je suis trop pauvre, et moi j'en ai assez d'être servante chez les autres. Alors fiançons-nous si tu veux. Seulement si Augustin veut m'embrasser, je me laisserai embrasser. Est-ce vrai que je t'ai dit ça ? Il ne répondit rien, elle continua. Et quand ta mère à toi n'a pas voulu non plus, et que tu es allée vers elle et que tu lui as dit « Je me moque de toi », est-ce que je ne t'ai pas donné un conseil ? « Vois-tu que je t'ai dit, ne te brouille pas avec elle, parce que ça porte malheur. Tu en trouveras bien une autre. » « Et tu ne m'as pas écouté. Est-ce vrai, encore une fois ?» Elle attendit, rien ne vint, elle reprit. « Et comme tu continuais à me fréquenter et que tu venais tout le temps, est-ce vrai que je t'ai dit, tu n'es pas comme les autres ? Je t'ai dit, et puis tu es trop maigre. Tu riais. » « Dis, est-ce vrai ?» De nouveau, elle s'arrêta. Ce fut inutilement. « Alors quoi ? Augustin est revenu. Il m'a invité. On a été voir pour le foin ensemble. Et si toi, tu es venu par derrière, qu'est-ce que j'y peux ? » Ayant parlé ainsi, elle se tut. Lui se taisait toujours. Il y avait sur le foyer une grosse bûche. Rongée au milieu, elle se cassa tout à coup, et un des morceaux roula dans la cendre. Montrant l'enfant, Christine dit de nouveau « Donne-le-moi ». Mais il s'était brusquement reculé, et faisant un geste de la main comme pour l'écarter de lui, « Tu ne le toucheras plus ». Elle haussa les épaules, elle dit « J'ai quelqu'un pour me consoler ». Ayant ouvert la porte, elle sortit sur le perron et s'accouda à la barrière. Il n'y avait point de lune, mais une quantité d'étoiles, belles, blanches, comme en verre, qui semblaient pendues à des fils, bougeant ensemble dans le vent. Elles éclairaient à peine. Et sous le grand noir du ciel et l'ombre, la neige était étrange à voir, avec sa grande étendue blanche, cette lueur qui montait d'elle. Et au milieu, l'étang, tout sombre, la neige ayant fondu dessus. Christine se serra dans son châle. Puis, se penchant hors du perron, elle regardait vers le village qu'on aperçoit un peu derrière l'angle de la maison. Elle regardait une certaine fenêtre. Les carrés des toits se marquaient en blanc, et les murs de bois sombre, s'étant comme défaits et dissous dans la nuit, ils semblaient, ces toits, suspendus en l'air. Il y avait un point de lampe là-dedans, comme un œil rouge. C'était tout. Cependant, on remuait dans la cuisine. Une porte grinça, on était entré dans la chambre. Les pas revinrent, elle se retourna. Au même moment, il passa près d'elle. Il avait son chapeau sur la tête. Il tenait l'enfant sur un bras. Il avait sous l'autre un paquet. Il descendit l'escalier, elle lui dit « Que fais-tu ?» Elle répéta « Jean-Luc, que fais-tu ?» Il était déjà loin. Il s'en allait du côté du village. Et le lendemain, on apprit qu'il était descendu dans les bas, chez sa mère, comme on le sut encore mieux quand Félicien, le petit domestique, vint de sa part chercher les deux vaches et la chèvre. Chapitre deuxième. Ce nouveau dimanche de mars, le carillon ayant sonné vers les 9 heures, on vit le chemin qui monte des bas se couvrir de monde, car on était à la saison où presque tout le village y a déménagé. Ils sortaient du chaud, ils montaient au froid, ils y trouvaient la neige. Il y en avait encore une assez bonne épaisseur, surtout sur les revers, à peine si elle avait fondu autour du tronc des arbres, si bien que le sentier, tout juste large pour passer, était bordé de deux petits murs blancs. Où les gens s'en venaient, montant en longue file, les hommes les mains dans les poches, les filles serrées dans leurs châles. Et au loin, par la pente, on entendait le bruit des rires et des voix. Alors, tout à coup, la pente, elle casse, et tout le village paraît d'une fois, levant en l'air sa haute église. Au bas de quoi sont les maisons, étroitement serrées les unes contre les autres. On est, pour ainsi dire, dans le village dès qu'on le voit. Et premièrement, vient le moulin à la très vieille roue arrêtée, à cause du jour de repos. Puis des racards avec des granges. Enfin, la route tourne un peu et on s'en va alors entre deux rangées de petits jardins à barrière grise, avec les maisons, dans le fond, presque toutes ce jour-là fermées. Cependant, dans l'une ou dans l'autre, une porte parfois s'ouvrait, et quelqu'un en sortait, habillé en dimanche, se mêlant à ceux sur la route. Et plus on s'approchait, plus le carillon allait grandissant, étant de 6 cloches, toutes les 6 en mouvement qui allaient et tournaient dans l'air avec leur cadence pesante, se heurtant et s'éparpillant. Peu à peu, il se tut. Et alors vinrent d'autres sonneries. La plus grosse des cloches sonna à la volée. Le bruit des voix en fut tout recouvert, et aussi le craquement des esquilles de glace sous les gros lourds souliers. Il y eut des gens en retard qui passèrent encore, se dépêchant, après quoi on sonna le commencement de la messe, et tout fut tranquille et désert, si loin qu'on pouvait voir, dans le village et sur les champs. Seul, près du cimetière, devant une ancienne maison, 5 ou 6 hommes étaient restés assis à causer sur un tas de poutres. Il y faisait bon, le soleil venant de sortir d'entre les nuages traînants et s'engourageant à chauffer contre le bois noir et le mur. Ils avaient allumé leurs pipes, étant de ceux qui montent bien toujours pour la messe, mais n'y assistent plus, sauf les grands jours de fête. Et se passent ainsi du bon Dieu, ne se ressouvenant de lui qu'à l'heure de la mort. Ils causaient, puis un long moment restaient sans rien dire. On a quelquefois une idée qui vous passe par la tête, et on ôte sa pipe d'entre les dents pour la faire connaître, après quoi on reprend sa pipe, on attend qu'il en vienne une autre. Comme il faisait, parmi le bruit d'orage de l'orgue et la voix des chantres. Et ils regardaient en avant d'eux, par les prés qui descendaient avec de beaux plis doux, les petits arbres nus qui semblaient en fer et rouillés, tandis que contre le bournis, un nuage pendait comme une aile cassée. Mais le grand vent de l'orgue souffla de nouveau avec puissance, et, comme si les nuages lui eussent été obéissants, tout à coup le soleil se couvrit de nouveau. Les hommes boutonnèrent leurs vestes, où ils battaient du pied la terre durcie. Il y eut l'orgue encore, qui mourut. Soudain on sonna l'élévation. Ils ôtèrent leurs chapeaux, ils s'en vinrent tous ensemble du côté de l'église. Au bas du grand mur gris, une toute petite porte peinte en bleu est percée. Le mur est nu, sans fenêtre ni ornement. La porte était fermée, et tout contre, appliquant l'oreille, 2 hommes penchés écoutaient. Et en face est le cimetière, large et carré entre ses bas murs de pierre non crépie, avec sa grille noire à tête de mort et ses ossements croisés. Et point d'arbres dedans, mais les croix de couleur avec le dessus en triangle, et au fond, une autre grande croix de pierre. Et la neige couvrait tout. Seulement elle s'était un peu affaissée sur le bord des tombes, lesquelles sortaient, rangées à la file, comme des petits lits blancs. On pensait « Ils ont au moins chaud là-dessous ». Le grondement de l'orgue à présent secouait les murs, puis la voix des chantres reprit, puis vint de nouveau un silence. Puis, la porte s'étant ouverte, le monde commença à sortir. Et les hommes, s'étant approchés, se tenaient appuyés contre le mur du cimetière et regardaient. On sortait en silence. La masse des gens, serrée d'abord dans l'étroite ouverture, allait se répandant dehors avec difficulté. Des toutes vieilles, appesanties par les années, noueuses de gros os sous les robes à taille devenues trop grandes, et aux vieux aussi les habits trop grands, étant faits depuis le jour de leur mariage, les filles jolies en dimanche, baissant la tête sous leur chapeau, les garçons en noir, les hommes, les femmes, et quelques-unes, tendant le bras, faisaient un signe de croix dans la direction des morts. Parmi elles sortit Christine. Elle avait son livre de messe qu'elle portait à plat contre son tablier, les mains croisées dessus. Elle avait un mouchoir de cou à carreaux, avec sous le menton un gros nœud comme une cravate. Elle était seule. Elle marchait vite. Et alors, à peine avait-elle tourné l'angle de l'église, qu'on vit sortir aussi Jean-Luc. « Tiens, » dit quelqu'un, « voilà Jean-Luc. »« Bien sûr, » dit un autre, « il est remonté. » C'était vrai, il venait de remonter, s'étant remis à son ménage, après être resté tout l'hiver chez sa mère. Il dit bonjour à ceux qui étaient là, sur quoi il s'arrêta comme pour leur parler, mais ne leur parla point, et descendit du côté de la place. Elle était noire de monde, car c'est la coutume d'y venir, après la messe, parler d'affaires. Le reste de la semaine est mangé d'ouvrage, on n'a pas le temps de se voir. D'un côté, il y a le prieuré et l'auberge. De l'autre, la boutique qui venait de rouvrir. Au milieu, un grand tilleul est planté avec un banc de pierre autour de son tronc écailleux. Et il donne l'été une belle ombre ronde, mais dans cette saison, il était comme mort. Par habitude, on se tenait dessous, on y pouvait à peine remuer, tout ce monde parlant, discutant, s'appelant. Jean-Luc restait là, sans rien dire, les mains dans les poches. Car un premier homme, l'ayant vu, était venu et lui avait dit « Alors, te voilà ?» Il avait dit « Oui, me voilà. » Et un second et un troisième étant venus, lui avait dit « Alors, te voilà ?» Il avait répondu « Vous voyez. » Alors on l'avait laissé tranquille parce qu'on pensait « Ça ne va pas avec Christine, il n'est pas de bonne humeur. » Mais le secrétaire municipal étant monté sur le banc du tilleul avec les papiers de commune, le silence se fit. Un grand rond se forma. Il commença de lire. Les ayants droit au bis de Biolaire sont convoqués en séance. Office des poursuites et faillites. Faillis. Créanciers. Jean-Luc se dit « Pourquoi est-ce que je suis remonté ?» Et pendant que les noms suivaient, et des phrases et encore des phrases, il sentait la tristesse gagner au-dedans de lui, et le vide avec un accablement. Il se demandait « Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Faut-il que je rentre chez moi, quand même elle y est, qui se moque et rit quand elle me voit ?» Car il n'était point remonté de lui-même, elle avait été le chercher. À ce moment, quelqu'un lui cria encore « Salut Jean-Luc !» Ayant relevé la tête, il reconnut Théodule, son cousin, qui lui serra la main, puis s'en alla avec les autres. Lui restait. Il se demandait « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Toutefois, peu à peu, la place se vidait, midi étant près de sonner, et on voyait les gens sortir de la boutique, portant des sacs et des paquets. Jean-Luc finit par se laisser aller au mouvement. Il prit par la ruelle. Des plaques de neige, glissées des toits, la coupaient par places, en travers, de bourrelets durcis en glace. Il fallait passer par-dessus, ou bien les contourner en se collant au mur. Le ciel s'était abaissé par le poids de ces nuages, complètement joints et refermés. Un enfant pleurait, la fumée des cheminées dans l'air lourd, au lieu de monter, pendait, rabattue. Il s'arrêta. Il revint en arrière. Il s'arrêta encore. Il prit alors à droite, monta un bout de pente, vit l'étang, sa maison, isolée et tournée au nord. Il se disait « On est au bout du monde. Pourquoi le père a-t-il bâti là ? Ils disent bien que c'était un sauvage. » Tout habillé de blanc sur sa couche de glace épaisse, on ne devinait plus l'étang qu'à sa surface plate, tandis qu'autour, tout le pays allait par montées et descentes, et dans le fond, les grands étages de prés et de bois cachés sous le brouillard. La maison était là, enfoncée du derrière dans la pente, la porte de la cave s'ouvrant par devant au ras du sol, bâtie en bois déjà noirci sur un soubassement de pierre. Le toit découvert dans le haut, montrant ses larges plaques d'ardoise. Et en travers de la façade, de côté, il y avait l'escalier qui montait, se terminant par un perron, d'où on entrait dans la cuisine. De la cuisine, on passait à la chambre. Et au-dessus, sous la pente du toit, il y avait une seconde chambre. Seulement, on n'y arrivait que par une échelle et une trappe percée dans le plancher. On n'y habitait pas, on y serrait les vieilles choses. C'était pourtant assez pour vivre, comme il pensait, mais il y faudrait le bonheur comme un autre habitant. Quand on pense le trouver chez soi, on ne va jamais assez vite. Au contraire, lui, plus il approchait, plus il allait lentement. De loin déjà, il entendit des voix. La porte de la cuisine était restée entrouverte. Il eut envie de s'en retourner, mais à quoi bon ? Il monta l'escalier. Il trouva Ambroisine, une amie de Christine, qui était venue en visite. Il fut obligé de parler un peu, à peine s'il trouvait ses mots, et Christine le considérait, tandis que Félicie, une sœur qu'elle avait, était assise sur le bord du foyer. C'était une simple d'esprit, on n'aurait pas pu deviner son âge, ayant le rire d'une enfant et des rides comme une vieille, avec une figure en cire et un goitre dur et rond qui lui pendait au cou, dans une espèce de sac de peau, comme une sonnaille de vache. Elle s'était mise à chanter et branlait la tête en chantant. Sur quoi, midi sonna, ils mangèrent. Jean-Luc ne parlait pas. Seulement, de temps en temps, il regardait du côté de sa femme et le petit qu'elle tenait, et il se demandait « Pourquoi est-ce que je lui permets ?» Il eut vite mangé. Il s'assit près de la fenêtre. Au bord de l'étang, sur le talus raide, des gamins s'amusaient à faire des glissades et tombaient les uns par-dessus les autres, criant et riant. C'est l'âge où on est heureux. Il y avait trois petites filles dans leurs jupes longues qui se donnaient la main, arrêtées près de là, n'osant pas approcher. Puis, sur le chemin de la digue, un garçon passa avec une fille, s'en allant du côté d'Andogne, et ils disparurent au tournant. Alors, plus rien que le brouillard qui descendait encore, se déchirant à la pointe des arbres. Jean-Luc alluma sa pipe, puis il alla s'étendre sur son lit. Il avait refermé sa porte. On entendait causer Christine et Ambroisine, qui se racontaient des histoires et éclataient de rire tout le temps. Il était étendu sur le dos. Il y avait les poutres brunes du plafond, un plafond bas, avec les nœuds et les veines du bois qu'il suivait des yeux, et ainsi ses yeux allaient jusqu'à l'autre bout de la chambre et à l'alignement des petites fenêtres par où on voyait un coin de pré blanc. Après quoi, ses yeux revenaient, et c'étaient les quatre ou cinq meubles qui lui venaient de ses parents, qui avaient toujours été là. La table, avec dessus un tapis de coton blanc que Christine avait crocheté, les deux chaises, le banc, le grand poêle de pierre grise, le berceau, mais celui-ci neuf, puis le lit où il était et était né, où probablement il mourrait. Un lit à deux étages, avec un plumier à petits carreaux rouges qu'il avait tiré de côté pour se coucher. Puis, pendu au chevet, le grand crucifix rouge et bleu, et un bénitier d'étain avec la branchette de genièvre. On causait toujours à la cuisine. Il regardait vaguement ces choses. Enfin, la fatigue lui vint. Il s'endormit. Il se réveilla vers 4 heures. La maison était vide. Il s'assit devant le feu abandonné qu'il ralluma. Il se chauffa les pieds. Il bourra de nouveau sa pipe. Le vent s'était levé. Un grand vent de montagne qui vient avec comme deux mains et renverse les gens sur les routes. Ayant augmenté peu à peu de force, toute la maison se mit à craquer, et une grande obscurité descendait du milieu du ciel. Mais dans le bas de l'horizon, par une déchirure, un faux jour blanc venait, qui luisait sur la neige, rendant plus noirs encore les nuages qui pendaient contre la montagne. Et puis un à un en était arraché. Et Jean-Luc, fumant à courte bouffée, se demanda encore une fois « Pourquoi est-ce que je suis remontée ?» Car elle était descendue à deux reprises le chercher. Inutilement. La troisième fois seulement, il l'avait suivie. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ? Donc, s'interrogeant, il revoyait ce jour de soleil, cet après-midi. Il avait été du côté d'Anzé refaire le chemin, et il travaillait là, levant sa pioche. Elle l'avait tout à coup appelé de derrière un buisson où elle s'était cachée. Et lui, il n'avait pas bougé. Et elle, de nouveau, « Jean-Luc !» Elle était venue, il lui avait dit, « Si c'est pour moi, tu peux t'en retourner. » Elle avait dit, « Ce n'est pas pour toi, c'est pour le petit. » Il avait répondu, « Ah, ce n'est pas pour moi. » Et il avait été comme retourné. Il avait senti remuer son sang. Il avait dit « Eh bien, je monte. » Par le soir qui venait, elle et lui s'en étaient allés jusqu'à la maison de la mère. Elle avait crié à son fils « Si tu vas avec elle, tu es mort pour moi. » Cependant, ensemble, ils étaient montés. Ils avaient suivi le chemin vers le rose là-haut qui venait sur la neige, avaient retrouvé la clé sous la porte, vu le foyer. et de cela il y avait 3 jours, et il n'avait pas encore compris. Il haussa les épaules. Justement, Christine rentrait. Par les petits carreaux, on la voyait venir, marchant, toute penchée, avec l'enfant serré contre elle et ses jupes qui s'envolaient. Arrivée à l'escalier, elle fut obligée de s'accrocher à la barrière, puis fut comme jetée dans la cuisine, au milieu d'un grand remous d'air qui coucha brusquement la flamme du foyer, et tout disparut dans la fumée. Elle posa l'enfant au bout du banc, elle défit son fichu qu'elle s'était noué solidement sous le menton. « Ça souffle fort, » dit-elle. « C'est la pauvre Ambroisine qui aura du mal pour descendre. » Et alors, « Tu boudes toujours ?» Puis se touchant le front, « Tu l'as dure, tu sais. » Il demeurait abattu et fermé. Le soir vint, ils mangèrent encore, vint tout à fait la nuit. Quand ce fut l'heure d'aller se coucher, elle lui dit, « Viens-tu ? » Il lui dit, « Va à la première. » Il attendit un moment. Ensuite, poussant la porte, il s'assura d'abord que Christine était endormie, et seulement alors se glissa dans le lit. Il fit tout doucement, en sorte qu'elle ne se réveilla pas. Il s'étendit près d'elle, mais elle ne put s'endormir. La chandelle brûlait sur la table, avec sa petite flamme pointue, un peu fumeuse dans le bout. Et il la voyait là, tout près, celle qu'il avait tant aimée. Ses tresses dénouées pendaient sur l'oreiller. De dedans sortait sa petite oreille, et, tirée en arrière, son front était lisse et luisant. Ah, il aurait voulu mettre un baiser dessus. Cependant, il se contenait. Et puis, à cause qu'en rêvant elle avait sorti son bras nu, il ne put s'empêcher. Il étendit la main, mais presque aussitôt il la retira, comme brûlé par ce toucher. Il se mit à trembler. Il souffla la chandelle. « Est-ce qu'on est si faible ?» comme il se demandait, et cherchait le sommeil, mais il fut long à le trouver. Les heures de la nuit, comptées au clocher par la grosse voix, passèrent ainsi une à une dans le vent qui reprenait, tombant en vagues sur le toit. Et alors son bruit couvrait tout. Puis il y avait un intervalle de silence, on entendait craquer les poutres du plafond. Les jours suivants, ayant attelé à la luge sa vache Fumette, qui veut dire couleur de fumée, il s'occupa à transporter le fumier. Comme Fumette était pleine, c'était tout juste si elle entrait dans les brancards. Il la poussait en arrière et l'assujettissait avec les cordes bien nouées, sur quoi il criait « Hu !» et il partait, lui et sa bête. Il y avait toujours du brouillard, mais il s'arrêtait juste à la limite du plat où est le village, et on entrait dedans comme par une porte aussitôt refermée. Et Fumette, le cou tendu, tirait par le chemin plein de boue fondante. Jean-Luc marchant à côté d'elle d'un pas fléchi et lent, la corde de son fouet passée autour du cou, le manche qui battait contre son pantalon. Il avait mis un vieux chapeau de feutre à bord baissé, sa veste était trouée au coude, sa chemise grise laissait voir son cou à la boule saillante. À un endroit, un peu au-dessus de l'étang, il quittait le chemin et prenait la pente en travers. Là, la couche de neige était encore épaisse. Fumette enfonçait de ses courtes jambes, tandis que la luge, sous son poids carré, se mettait à pencher. Et dans le grand silence, les patins de bois ferré faisaient entendre leurs petits sifflements. Jean-Luc criait « Hue, Fumette !» et faisait claquer son fouet. Et des fois, dans une éclaircie, plus bas vers le village, ou plus haut par les pentes, on apercevait d'autres hommes qui allaient, comme lui, avec leurs petits attelages. Puis tout se recouvrait et redisparaissait. Alors, Jean-Luc, enfonçant son trident dans la charge, la répartissait par tas égaux à la surface du morceau de pré qu'il avait. Un morceau tout petit, comme ils sont ordinairement dans le pays, et encore égrené partout, à la suite de trop de partage. Il faisait ses tas. Puis, sa luge étant déchargée, il s'en retournait. Mais souvent, il se reposait un moment, debout à côté de Fumette, et en bas regardait sa maison, à présent découverte et toute réduite dans l'enfoncement. Il y avait sous la fenêtre des langes roses qui séchaient. La porte était fermée, la cheminée fumait. Il se disait de nouveau « Voilà que je suis remonté ». Il se demandait de nouveau pourquoi. À quoi il répondait « À cause du bien qu'il faut qu'on soigne quand même ». Mais il sentait qu'il se mentait à lui-même. « À cause du petit ». Mais il se disait « Il vaudrait mieux qu'il n'ait point de mère que d'en avoir une comme celle-là ». Non, qu'il reprenait, c'est à cause de ce qu'elle m'a dit, j'ai eu colère. Il y avait de la fierté en lui. Et alors, allant plus profond, là où on ose à peine regarder, est-ce que j'aurais besoin d'elle? Mais alors il se raidissait. Jamais, disait-il. Je suis revenu, eh bien, ce qui est fait, et je travaillerai pour elle, et elle pour moi, et on vivra ensemble. Mais pour lui pardonner, il répétait « Jamais !» Et il regardait toujours la maison où il avait été heureux, parce que sous le petit toit, il y a deux cœurs qui se sont donnés. Et la porte, le soir, se ferme sur le contentement du jour et pour le baiser de la nuit. Et on est brisé de fatigue, mais on se dit « J'ai pourtant une petite femme !» C'est le plaisir des pauvres, et elle est bien attachée à moi. » Il secouait la tête et reprenait ses traces, assis maintenant sur la luge, et un petit chemin peu à peu se faisait. Et il ne s'arrêtait point de travailler jusqu'au soir, cherchant à oublier dans la fatigue, comme d'autres font dans le vin. Et, levant son chapeau, se grattait derrière la nuque, et, rentré, se taisait, et fumait, crachant sur la cendre chaude ou la braise sombre qui siffle. Et sa vie au dehors était restée pareille, avec Félicie qui venait et restait tout le jour à la même place, branlant la tête et chantant sa chanson, avec aussi le vieux Simon, le père de Christine, qui venait quelquefois. Lui, tout tordu et paralysé, et penché sur sa grosse canne, comme un arbre sur son tuteur, ayant un habit bleu à queue et boutons de cuivre de l'ancien temps. Et pendant qu'il venait de chez lui jusque chez son gendre, la barre d'ombre sur le cadran solaire avait presque le temps d'aller d'un chiffre à l'autre. Le vent avait repris plus chaud, celui qu'on nomme « mange-neige ». Les plaques noires s'agrandirent, l'étang noirci se crevassa, un jour on vit l'eau délivrée, où les grenouilles mortes, remontées du fond, flottaient, et des troupes de corbeaux tournaient au-dessus. L'ombre vint, il y avait le noir des bois et un bleu noir sur la montagne, avec un ciel toujours chargé et des îles de clair parmi. De nouveau elle l'appela, mais il lui répondit « Jamais ». Chapitre troisième. Or, à la fin d'avril, il se cassa la jambe. À cause de la neige tôt venue, il n'avait pas pu, l'automne d'avant, finir de faire le bois à sa sette. Et ils y étaient retournés, Théodule Chabet, Romain Aymon, le vieux, Jean-Pierre Carreau et Fardé. Jean-Luc faisant le cinquième. C'est dans la gorge de la Zo, qui est derrière le Bourny, une pente raide et pierreuse qui descend droit en bas jusqu'au torrent qui coule, gros en cette saison. De bonne heure déjà, il s'était mis à la besogne. Les sapins dont il s'agissait s'étant inclinés d'eux-mêmes sur le vide par l'effet du poids des branches d'en haut, on n'avait pas besoin d'y attacher la corde, on les attaquait aux pieds. Quand l'entaille était assez profonde, il cassait, s'abîmant parmi les rocailles, rebondissant jusqu'au chemin. Il y avait encore du brouillard. Il s'était formé peu à peu, s'élevant du fond de la gorge, comme fait l'eau dans un bassin. Le grand grondement de l'eau étranglée entre les rochers remplissait l'espace, à peine si on s'entendait. Et les hommes étaient là, accrochés à la pente. Alors, un peu plus en amont, elle devient plus raide encore. Puis tout à coup, c'est un vrai mur, un mur de 100 mètres de haut. Où va, pendu en l'air, le Bis, un grand canal de bois, fixé au moyen de poutres enfoncées aux fentes du roc et gagnant ainsi tout le long de la paroi jusqu'aux régions des neiges tardives, où il recueille l'eau qui sert à irriguer les prés. Sans quoi le climat est trop sec, l'herbe serait vite brûlée. On le voit qui s'éloigne, toujours surplombant le vide, devenu comme un fil, marqué en noir sur la pierre plus claire, puis soudain tourne, disparaît. Ils travaillèrent toute la matinée. Vers midi, ils mangèrent. Après quoi, tout de suite, ils reprirent leur hache, parce que l'ouvrage pressait. Cependant, vers les 3 heures, ils se trouvèrent assez avancés, car des 5 arbres qu'ils avaient à abattre, il n'en restait plus qu'un debout. Le plus gros, il est vrai, mais vieux et pourri. Et Théodule s'y était mis, tandis qu'au-dessous de lui, Jean-Luc et Romain ébranchaient. Aucun d'eux ne parlait, étant trop occupé, et essoufflé aussi. À cause de l'habitude qui vient, on n'entendait même plus le grand bruit de l'eau. Il est fait silence. Rien que les coups de hache, les grands, à la volée de Théodule, et les autres plus courts et secs de Jean-Luc et de Romain. Le soleil s'était abaissé dans le ciel. Soudainement, il perça les nuages, la grande paroi du Bis devint rose. À une place, l'eau suintait, il y avait une plaque d'humidité. Elle brilla comme de l'or. On vit fumer les pentes, et au loin, dans le bas de la grande vallée, les étendues se découvraient, avec la barre d'argent du fleuve, et dans le fond de l'horizon, un entassement de hautes montagnes. Un grand oiseau de proie parut, et un moment resta immobile dans l'air, puis il tomba comme une pierre. Il y avait un petit vent tiède qui était venu, des vapeurs passaient, se haussant et se défaisant, pareils à de la plume dans la lumière descendue où le soleil était noyé. Déjà on sentait l'odeur mouillée du soir. On entendait toujours les grands coups de la hache contre le cœur de l'arbre. Théodule levant l'outil au long manche, le rabattant d'un mouvement en rond des épaules. Et, hors de l'entaille élargie, le fer luisant rebondissait. Tout à coup, le tronc craqua. Théodule cria « Gare !» Puis il se remit à frapper. On vit trembler la pointe du sapin. « Gare !» cria de nouveau Théodule. Mais il avait encore la bouche ouverte, qu'il y eut dans le haut du tronc comme une hésitation. Il pencha à droite, il pencha à gauche, et Théodule n'eut que le temps de se jeter en arrière. Toute la masse s'abattit parmi le sifflement des branches, s'écroula et roula dans une espèce de fumée d'aiguilles et de débris d'écorce projetés en l'air. Puis tout à coup, Romain, qui s'était caché derrière une grosse pierre, arriva en courant, criant « Ah, mon Dieu, il est pris dessous !» Et ceux qui étaient restés sur le chemin grimpaient avec hâte à la pente. Jean-Luc, en effet, était couché là, ayant été pris sous l'arbre, comme il se sauvait. Pris par le bas du corps, et le haut seul sortait, avec une figure comme de la mie de pain, et des yeux troubles grands ouverts. La peau du front était fendue, du sang avait coulé jusque dans sa moustache. Il avait la poitrine nue et ne remuait point, étendu sur le dos, les bras largement écartés, comme un homme cloué en croix. Si bien qu'on le crut mort d'abord, et Romain, qui était pieux, se signant, dit une prière, comme on vit à ses lèvres qui remuaient, tandis que les autres restaient là, debout, pleins seulement d'un grand étonnement. Puis Fardé ôta son chapeau et dit 2 fois « Tonnerre ! Tonnerre !» Théodule, parmi sa grosse barbe noire, était encore plus pâle que Jean-Luc. Il disait « J'ai pourtant crié, seulement le tronc était pourri au milieu !» Mais soudain, Jean-Luc poussa un soupir. Le rouge du sang lui revint sous la peau. Il regarda autour de lui, sans doute qu'il se rappela tout. Il dit
Ce n'est rien, j'ai seulement les jambes prises. »
On le tira d'où il était, on le coucha dans un endroit plat où il y avait de la mousse, on lui mit sous la tête un habit roulé en guise d'oreiller, et Romain, ayant été chercher la bottille, le vin acheva de le réchauffer et de le faire revenir à lui. Alors on regarda le mal qu'il avait. Son pantalon, comme la chemise, avait été mis en morceaux, et une des jambes n'était qu'écorchée et meurtrie. Mais quand on toucha l'autre, il poussa un gémissement. À celle-là, au-dessous du mollet, l'os en avait été cassé, de sorte qu'elle était déjà très enflée, et de côté, par une plaie, un caillot de sang noir pendait.
« Ce n'est rien !» répétait Jean-Luc, parce qu'il était courageux. Sur quoi Romain lui dit « Bois encore un coup !»
Jean-Luc but. Ils le soulevèrent à eux quatre, ils le portèrent sur le chemin. Ayant fait une espèce de brancard avec des branches et des cordes, ils l'étendirent dessus, puis se mirent en route. Romain avait pris les devants. Eux suivaient lentement le chemin qui longe la gorge, laquelle va s'élargissant, puis s'ouvre et on arrive dans les prés. Alors le village paraît. Elle était allée à sa rencontre, et du plus loin qu'elle le vit, courut, comme Romain l'avait trouvé, les manches retroussées, son tablier trempé, car elle était en train de faire la lessive. Du plus loin se mit à courir, et elle vint, se jetant contre lui.
« Qu'as-tu ? »
qu'elle disait. « Qu'as-tu ? » car elle craignait que Romain n'eût pas dit la vraie vérité. Jean-Luc lui répondit « Je me suis cassé la jambe. » Alors elle l'embrassa devant tout le monde. Beaucoup de gens étant déjà venus, elle répétait « Est-ce bien vrai ? Bien vrai ? Et ce sang ?» Et elle l'essuyait ce sang avec son mouchoir, puis repartit vers la maison. Et quand les hommes arrivèrent avec le brancard, le lit était déjà fait, l'eau mise sur le feu, le linge pour les bandes préparé. Puis, sitôt Jean-Luc couché, elle s'assit à côté du lit. Mais il ne semblait pas la voir, ayant fermé les yeux, ni l'entendre quand elle parlait, et elle, de son côté, semblait se résigner, ne bougeant plus, ne parlant plus. Marie et son mari, le maréchal, étaient venus, puis des voisins et des voisines, toute la cuisine était pleine. Continuellement, on entrait et on sortait. On avait été chercher le boucher, car il était entendu à ces choses-là. Il lava la blessure du front et de la jambe. Il dit « Il faut faire venir le médecin ». Aussitôt, Christine éclata en pleurs. Théodule déjà avait attelé le mulet, puis était partie. Elle restait là, la tête baissée, croisant ses mains sur sa figure, les larmes une à une roulant entre ses doigts. Et Marie lui disait « Calme-toi, Christine, ce ne sera rien !» Mais elle pleurait toujours. Puis par moments, elle recommençait « Jean-Luc, écoute-moi ! Jean-Luc, écoute-moi !» Il ne tourna même pas la tête. Cela fit qu'elle pleurait plus fort. Puis tout à coup, les larmes lui séchèrent. Elle dit à Marie « As-tu fait du thé ?» Et l'autre disant non, « Tu vois, la fièvre le prend !» Elle courut à la cuisine et fit du thé d'herbage qu'elle lui apporta. Mais il ne voulut point le boire. Et depuis ce moment, elle ne bougea plus de dessus sa chaise jusque tard dans la soirée où le médecin arriva, tandis que Jean-Luc commençait à s'agiter et à se découvrir. Le docteur, étant entré, posa sa trousse sur la table. Il examina l'enflure. « J'aurais besoin, dit-il, de deux hommes solides. » Le maréchal sortit, et le médecin de nouveau s'adressant à Christine, « Vous aussi, il vous faut sortir. » Mais elle s'y refusa. « Alors, dit-il, vous vous tiendrez tranquille. » Elle le regardait, et cependant deux hommes étaient arrivés, et sur l'ordre que le docteur leur donna, ils prirent Jean-Luc par les épaules, tandis qu'avec l'aide du maréchal, il se mettait à tirer sur la jambe. Elle était extrêmement enflée, sans forme, le pied tout rond et violet. Ils tiraient dessus de toute leur force. Jean-Luc poussa un grand cri.
Et il continua à crier malgré son courage, tant la douleur était vive. Plus les hommes tiraient fort, l'os résistant toujours, plus les cris devenaient perçants. Le docteur lui disait « C'est bientôt fini, de la patience !» Et Jean-Luc se cramponnait à sa chaise, serrant les mâchoires. C'était vainement. Christine, cependant, avait été se mettre dans le coin de la chambre. Au premier cri, un grand frisson l'avait saisie, et elle s'était bouché les oreilles. Mais elle avait beau faire, elle les entendait, ces cris, comme du dedans d'elle-même. Et voilà, tout à coup, elle se jeta sur le médecin. On n'eut pas le temps de la retenir. Elle lui criait « Lâchez-le ! Lâchez-le, je vous dis ! Vous allez le tuer !» Elle le tenait par les épaules. Comme elle était très forte, il n'arrivait pas à se défaire d'elle. « Emmenez-la, disait-il. Elle est folle. » Ce ne fut pas facile. Il fallut que le maréchal lâchât Jean-Luc et il essayait d'entraîner Christine vers la porte. Elle se débattait. Le médecin disait « Dépêchons-nous, voyons !» Mais au même moment, Jean-Luc se mit à dire « Pierre-François, va doucement !» Et il reprit « Laisse-toi faire, Christine, ils disent que c'est bientôt fini, alors tu reviendras !» Elle le regardait, et lui la regardait. « Pauvre femme, continua-t-il, elle a du chagrin à me voir souffrir. » Et subitement, elle était devenue docile. Elle dit à François « Je sortirai bien toute seule. » Et sortit en effet, rentrant à la cuisine où Marie l'attendait, tandis que le médecin se remettait à son ouvrage, qui l'eut bientôt mené à bonne fin. Tout de suite, elle fut là, tandis que le docteur avait été se laver les mains, et les hommes boire. On l'entendit qui disait à Jean-Luc « Est-ce possible? Tu m'aimes quand même un petit peu ?» Et Jean-Luc lui répondait. En sorte que, quand Marie, ayant fini de mettre tout en ordre, voulut aller leur donner le bonsoir, elle heurta par discrétion. On ne répondit rien, elle poussa la porte. Christine était couchée à côté de Jean-Luc. Elle n'avait voulu personne pour l'aider à le veiller. Elle était là, couchée tout habillée, étendue près de son mari, lui passant doucement la main dans les cheveux. Et lui, sous la caresse, avait fermé les yeux. Elle répétait « Tu es bien, dis, mon gros. » Il lui répondait « Oui, merci. » Elle l'embrassa et lui rendit son baiser. Et remuant, s'agitant dans son lit avec sa jambe lourde qu'il faisait souffrir, par moments il était emporté dans des espèces de mauvais rêves. Mais revenant à lui, il la retrouvait là, avec ses mains fraîches et son clair sourire. Le temps allait, elle ne l'avait point quitté. On entendait les grandes heures de la nuit craquer, tomber, se détachant d'en haut le clocher comme des fruits mûrs qu'on secoue. Il n'y avait plus rien que la petite lumière, et Jean-Luc étendu et Christine à côté de lui. Il s'était assoupi, la tête sur son bras. Par les petites vitres troubles, on voyait un coin de l'étang. Tout était dans le silence. Pourtant, Jean-Luc recommençait à s'agiter. Tout à coup, comme minuit sonnait, avec ses 12 coups très lents, il se réveilla en sursaut. Il demanda à Christine « Est-ce pour les morts qu'on sonne ?»« Oh mon Dieu, à quoi penses-tu » disait-elle. « Jean-Luc, entends-tu, je suis là !» Et, le serrant contre elle, elle posa sa joue contre sa joue piquante. Il s'était calmé tout de suite. Tout de suite, il se rendormit.